dont certains que je reconnais d'ailleurs. Merci d'être venu ce soir pour nous entendre parler des pathologies oculaires. On a essayé d'être assez large, c'est-à-dire qu'on parlera évidemment des problèmes de la cataracte, également de problèmes de glaucome et de pathologies rétiniennes. J'ai choisi de parler de la DMLA parce que c'est un problème fréquent, donc il faut quand même connaître un peu, et de dicalement de rétine parce qu'on en entend souvent parler, mais on n'en parle pas souvent de façon un peu plus précise. Je donnerai tout d'abord la parole à M. Champin, qui représente aussi l'Ordre des médecins et représente les médecins généralistes, qui ont un rôle très très important à jouer dans le dépistage des pathologies de la rétine ou des pathologies oculaires en général, parce que très fréquemment, des médecins traitants font des diagnostics tout à fait cohérents de cataracte ou éventuellement ils évoquent une DMLA. Et ils ont souvent raison. Et dans la région où il y a peu de médecins ophtalmologistes, en tout cas, on a des interlocuteurs vraiment très, très précis et très, très utiles pour simplement pour nous adresser les patients et parfois même pour voir des patients. Il arrive que des patients sont opérés, habitent relativement loin, à parfois 100 km du CHU, pour des raisons simplement d'accès aux soins. Et souvent, le médecin traitant peut revoir le patient qui a été opéré de la cataracte le lendemain pour nous donner son avis, pour voir le patient, ça lui évite de revenir. Voilà. Michel Boissonneau nous parlera de la cataracte. Michel Boissonneau a travaillé quelques années au CHU de Poitiers et maintenant travaille en ville. Et Martial Mercier, qui arrivera prochainement, parlera du glaucome. Donc, je laisse la parole à M. Champin. Pour des raisons d'organisation, Martial parlera ensuite, parce qu'il doit récupérer un collègue qui vient de Tours ce soir. On a une réunion après celle-ci. Et Michel, et puis je terminerai éventuellement la soirée. Je terminerai la soirée.
Alors, merci au professeur de vous avoir expliqué un petit peu la soirée. Je vais rebondir sur deux, trois petites choses. Merci d'abord à tous d'être venus aussi nombreux ce soir à l'Espace Mendès France. Il y a donc un dossier que vous avez récupéré très certainement à l'étage, à l'accueil. Dans ce dossier, vous allez trouver une petite feuille qui va vous permettre de poser vos questions si vous ne souhaitez pas vous exprimer dans le micro à la fin de l'exposé de chacun des invités ce soir. Donc Nicolas Leveziel, qui est le chef du service d'ophtalmologie du CHU de Poitiers, qui vous a accueilli, qui vous a expliqué un petit peu comment allait se passer cette soirée. Il y a le docteur donc Martial Mercier qui va arriver. Il y a le docteur Michel Boissonneau et le docteur Bernard Champin qui donc s'exprimeront ce soir. Toutes vos questions donc sur le petit papier, je vous le montre. Ce petit papier-là, si vous avez envie de poser une question et que vous êtes trop timide, sinon vous levez le doigt, je viendrai à votre rencontre et je vous donnerai le micro. C'est très important de parler dans le micro ce soir parce que la conférence débat est enregistrée par le service technique de l'Espace Mendès France et vous pourrez ensuite réécouter ou faire écouter cette conférence débat à vos amis qui n'ont pas pu être présents ce soir sur le site internet de l'Espace Mendès France, www.e comme espace, m comme Mendès et F comme France, EMF. Voilà. Il y a aussi, pour tous les habitués, vous allez découvrir dans ce petit dossier de nouvelles pages. Alors, il y a plein de choses en couleur. Vous pourrez prendre des notes face à ces petits dessins, si vous le souhaitez. Et il y a d'autres petits documents qui ont été insérés dans votre dossier ce soir. C'est un document concernant la Fondation Aliénor, qui va vous permettre, si vous le souhaitez, pas forcément ce soir, mais un petit peu plus tard dans la semaine ou dans l'année, si vous le souhaitez, donc participer et verser quelques fonds à cette fondation Aliénor, qui permettra, donc c'est tout nouveau au CHU, peut-être que professeur, vous avez un projet, vous pourrez en parler, un projet concernant, donc, qui pourrait être aidé par vos donations, les vôtres et celles des personnes qui vous entourent, si vous avez envie de porter la bonne nouvelle. Surtout, ne vous en empêchez pas. Et voilà, plus on sera nombreux à participer à ce fonds et plus on pourra faire des recherches. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je ne sais pas, on va peut-être attendre le docteur Mercier.
On va commencer.
On va commencer, oui.
Et j'en profite, une toute petite intermède pour vous remercier aussi à l'Espace Mendès France d'avoir organisé et d'organiser régulièrement des séminaires et des présentations très, très intéressantes.
24 ans que ça dure.
C'est pas fini.
Allô. Donc bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier le professeur Leveziel qui m'a gentiment sollicité pour participer à cette intéressante conférence. Et bien sûr, comme il vient de le rappeler, au partenariat CHU Mendès France, qui depuis 24 ou 25 ans, c'est le jubilé d'argent bientôt, organise ces conférences qui sont toujours très suivies. Voilà, donc moi je suis le docteur Champin Bernard, je suis médecin généraliste à Poitiers, et évidemment je n'ai pas la prétention d'avoir les compétences des ophtalmologistes, mais je vais essayer à mon modeste niveau de vous exposer un peu la place du médecin généraliste dans la prise en charge des pathologies oculaires. Alors comme vous le savez, le médecin généraliste est qualifié de médecin de premier recours.
Bonsoir.
Médecin de premier recours, et malgré tout ce qu'on dit sur les problèmes de démographie médicale, déserts médicaux, difficultés à obtenir des rendez-vous, dans la majorité des cas, quand même, faut pas exagérer, on arrive quand même à avoir un rendez-vous avec son médecin généraliste dans un délai relativement en court, 24-48 heures maxi. Sur le plan strictement administratif et conventionnel, vous savez que depuis la convention de 2006, tout assuré social est censé avoir déclaré un médecin traitant. Et ce médecin traitant est le pivot donc du système de santé et doit être impérativement consulté pour avoir accès et être remboursé correctement vers certains spécialistes, alors dermato, pneumo, cardio, etc. Par contre, il y a quelques spécialités qui font exception, dont l'ophtalmologie, la gynécologie, la pédiatrie et certains malades de psychiatrie qui peuvent donc avoir un accès direct chez le spécialiste et en particulier l'ophtalmologue. Alors, hop. Donc la place du médecin généraliste dans la prise en charge des pathologies oculaires, ben, c'est le diagnostic établi par le médecin généraliste et c'est essentiellement basé sur l'examen clinique. L'examen clinique, ben, tous les étudiants apprennent ça, c'est d'abord l'interrogatoire, poser des questions au patient pour savoir de quoi il souffre. L'inspection, c'est-à-dire ben, ça, l'inspection, ça se fait avec les yeux, sans jeu de mots, donc il vaut mieux avoir une bonne vue. L'observation. Et accessoirement, ben, les quelques matériels que puissent utiliser les médecins généralistes, ça peut être des échelles de vision de loin, là, de Monnoyer, si je me souviens bien, ou les échelles de Parino pour les échelles de lecture pour la vision de près. On peut aussi utiliser des grilles pour dépister les DMLA, par exemple. Mais par contre, le médecin généraliste est quand même limité par son champ de compétences. Et l'absence de plateau technique approprié. Bon, il n'a pas l'appareillage, voilà. Donc, il va faire un diagnostic général. C'est pas péjoratif, mais enfin un peu grossier, mais qui va pouvoir quand même orienter les choses un peu plus tard. Alors, il intervient dans trois circonstances, quoi. Les cas urgents, les cas semi-urgents et les cas qu'il peut traiter lui-même. Alors, les cas urgents, ben c'est le dépistage et l'orientation rapide des cas qui s'ils sont pas pris de façon urgente, risquent d'avoir des conséquences délétères sur la vision des personnes. Ben, c'est le glaucome aigu, un œil rouge douloureux avec une baisse de la vision. Ça peut être certaines formes de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça peut être une baisse brutale, partielle ou totale de la vision. Ça peut être des traumatismes, les corps étrangers, les brûlures, etc. Et aussi le décollement de la rétine. Alors, ça, ensuite, le médecin généraliste intervient aussi dans des cas qu'on pourrait qualifier de semi-urgents. Ben, c'est le dépistage et l'orientation d'anomalies nécessitant un avis ophtalmologique spécialisé semi-urgent. Ben, c'est un médecin généraliste qui remarque un strabisme chez un enfant ou chez un adulte, une diplopie, des kératites, atteinte de la cornée, un zona ophtalmique, un ptérygion, une amputation du champ visuel, une inégalité pupillaire, une altération de la vision de près et de loin, une cataracte éventuellement, une DMLA. Et le médecin aussi peut conseiller certains patients, des diabétiques, des hypertendus, des insuffisants rénaux, de se faire faire un fond d'œil régulièrement. Enfin, le médecin généraliste donc peut intervenir directement dans certaines pathologies de l'œil et des annexes. Hein. Alors c'est surtout les annexes de l'œil, quoi, les paupières, vous savez, les chalazions, les orgelets, les choses comme ça. Le médecin généraliste soigne souvent quand même les conjonctivites allergiques. Là, en ce moment, c'est la saison, ou infectieuses, bactériennes. Bon, les gens sont très inquiets quand ils ont une hémorragie sous-conjonctivale. Là, ils ont l'impression que tout va péter dans la tête. Et voilà, ça, c'est une source fréquente de consultation chez le généraliste. Dans le zone ophtalmique, bon, il n'a pas les appareils pour le traiter, mais il peut déjà mettre en route un traitement par voie générale qui, comme vous le savez, plus il est administré précocement, plus il a des chances d'être efficace. Et puis enfin, on en a parlé un petit peu. Le médecin généraliste s'occupe du suivi, de la surveillance, donne des informations sur les contre-indications et les effets secondaires de certains médicaments sur la vision. Et il y en a beaucoup, quelquefois on ne fait pas toujours attention. Certains médecins ont des logiciels là qui les alertent sur les contre-indications de certains médicaments sur les problèmes oculaires, mais pas toujours. Donc c'est au médecin généraliste quand même d'être vigilant là-dessus. Je terminerai par une petite polémique sur la prescription des verres et montures en dépannage. C'est souvent conseillé par l'opticien parce que le patient, bon, il a cassé ses lunettes ou il les a perdues. Il peut pas obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc l'opticien lui dit, mais de toute façon, le médecin généraliste, avec ses ordonnances en tête, il pourra vous faire une prescription de verres. Alors j'ai mis prudence, là c'est un peu le conseiller ordinal qui parle, parce que la responsabilité du médecin est quand même engagée. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas eu un examen ophtalmologique récent, s'il y a un problème, le médecin généraliste peut être inquiété. Hein. Donc il faut être très très prudent, à moins vraiment des cas de force majeure ou vraiment une coïncidence où la personne a vu l'ophtalmo dans moins d'un mois ou moins de 15 jours. Mais dans le restant des cas, il faut quand même être très très prudent. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la place du médecin généraliste dans ces pathologies. Je vous remercie.
Je vais juste, si jamais vous retenez les noms pour poser des questions, remettre les bons noms devant les bonnes personnes.
Merci docteur Champin. C'est vrai que ça, vous avez un rôle très très important. Et comme vous l'avez souligné, typiquement, en ophtalmologie, on va vous en parler ce soir, le patient peut voir très bien, alors qu'il y a quelque chose de grave derrière qui se cache et qui est en train de se développer, comme un décollement de rétine ou une DMLA parfois. Ça souligne l'importance de voir son ophtalmo. Le médecin généraliste peut dépister beaucoup de choses, hein, notamment des pathologies qui commencent à être parlantes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles, je pense au diabète par exemple, pour lesquels un fond d'œil est nécessaire et le patient peut être très bien jusqu'à des stades très avancés, ou comme le glaucome dont va nous parler Martial tout de suite.
Donc je mets.
Non, elle est à la suite.
Je te passe. Ah, très bien. Bonsoir. Donc je vais vous présenter cette pathologie. Je veux bien.
Oui, je m'assois, oui.
Merci. Donc du glaucome, qui est une maladie. Non, ça, normalement. Ah, parce que ça, c'est le PDF. Ah oui, bon, il y avait 2-3 trucs animés, mais bon, c'est pas bien grave. Oui, il y a quand même des trucs animés, oui. On va peut-être quand même le transférer. Il y a des images GIF qui sont pas mal. Ça serait bien de le faire, quand même. Si ça veut bien fonctionner. C'est vrai que le glaucome est donc une maladie très sournoise, qui se développe souvent à partir de 40-45 ans. Et donc il est important d'aller voir régulièrement son ophtalmo pour dépister cette maladie. Je peux fermer là ? Alors, une pause de travail. disque amovible. Voilà. Mendes France. Normalement. Réparer. Bon. Une heure s'est produite. C'est génial. Il veut pas. Ouais. Bon. Ouais. Il veut pas. D'accord. Je le bascule là. On ne sait jamais. Si en le basculant là, ça le fait fonctionner. Il ne veut pas réparer. Une erreur. Bon, mais tant pis. On n'aura pas d'animation. On va faire ça. Ok. Voilà. Donc, c'est une maladie oculaire qui touche surtout les personnes de plus de 45 ans. Même si certains enfants et adultes très jeunes peuvent être atteints, mais souvent dans un contexte familial très particulier. Il y a beaucoup de patients suivis et traités en France, au moins 500 000, dont autant qui sont glaucomateux, non dépistés, et dont la pathologie évolue de façon sous-jacente, sans aucun symptôme. Donc le glaucome, c'est dû à une destruction du nerf optique, avec des anomalies du champ visuel, dont la cause principale est donc une augmentation de la pression intraoculaire. Donc le nerf optique va être altéré par cette pression intraoculaire qui est en général élevée, avec donc un nerf optique qui va se creuser de plus en plus. C'est dommage qu'on n'ait pas les animations, mais bon, tant pis. Et donc au fur et à mesure qu'on perd des fibres visuelles dans le nerf optique, le champ visuel qu'il a est normal. Cette petite tache, c'est simplement la tache du nerf optique qui est physiologique. Donc le champ visuel qu'il a est normal, va se noircir petit à petit, en commençant souvent par la périphérie, et progressivement va venir atteindre le centre de la vision. Mais le centre de la vision est atteint qu'à la fin de la maladie. Donc c'est une maladie qui reste très longtemps inaperçue. Donc non douloureuse. Et donc il n'y a pas de gêne visuel notable dans les phases initiales. Et naturellement, si on a un glaucome avec une atteinte du champ visuel majeur bilatéral, on va bien se rendre compte là qu'on a des choses sur le côté qu'on voit apparaître un peu trop tardivement, en particulier lors de la conduite, on s'en rend compte. Donc cette absence de traitement, bien sûr, peut amener à la cécité au stade terminal, auquel il n'y aura donc plus rien à faire. Donc là, c'était une animation pour vous montrer que le nerf optique se creuse de plus en plus et donc progressivement le champ visuel se rétrécit. Et c'est vrai qu'au départ, on peut très bien avoir la sensation de voir bien, mais avec un champ visuel extrêmement réduit, mais on voit à travers un trou de serrure en quelque sorte. Mais on peut ne pas bien s'en rendre compte. Sur des cas extrêmes, naturellement, si on en est à ce stade-là, on va bien se rendre compte que sur les côtés, ça va pas. Mais sur des atteintes du champ visuel débutantes, bien sûr, on ne peut pas s'en apercevoir, parce que les champs visuels des deux yeux vont se compenser, et donc les déficits ne sont pas évidents au départ pour le patient. Et c'est par le champ visuel qu'on arrive à les dépister. Donc dans l'image, l'immense majorité des cas, le glaucome est contrôlé par des traitements appropriés, qui permettent donc de stopper la maladie. Et il faut un suivi régulier chez son ophtalmologiste pour savoir si la maladie est bien stoppée ou suffisamment ralentie, ou si elle progresse encore de façon dangereuse. Donc là, on voit un champ visuel normal, et progressivement, on voit des anomalies dans le champ visuel qui apparaissent, qui se rétrécissent tout doucement. Sur plusieurs années, hein, 10, 20 ans, ça se fait. Mais bon, si on commence à 55, 60 ans... Bon, il vaut mieux dépister les choses assez précocement qu'à 80 ans quand on a un champ visuel tout noir. Un peu dommage pour la fin de la vie. Donc c'est une atteinte définitive du nerf optique et du champ visuel. Donc l'atteinte se fait au niveau de la tête du nerf optique, où les fibres visuelles vont plonger pour former ensuite le nerf optique qui va transmettre les informations au cerveau. Les lésions qui surviennent donc dues à cette hyperpression intraoculaire ne vont pas régresser. Ce qui est altéré, c'est définitif. Donc c'est une maladie qui est non réversible. Et si on dépiste tardivement, ben, ce qui est abîmé, ben, on ne va pas le récupérer. Et ensuite, le peu qui nous reste comme fibre visuelle et de champ visuel, ben, il faut faire avec sur l'espérance de vie qu'il nous reste derrière. Donc la correction par lunettes n'est bien sûr pas possible. Et donc même si c'était une maladie qui évolue très lentement, les premières, comme je vous le disais, les gènes visuels, les premières années donc sont inexistantes et il faut 10-15 ans pour que des déficits apparaissent et qu'on se rende compte peut-être un petit peu de quelque chose. Mais encore, souvent, les gens s'en rendent compte quand on leur fait un champ visuel, qu'ils prennent conscience un peu leur déficit, et là, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a une petite zone qu'ils ne voient pas, qu'ils n'avaient pas vraiment pris conscience au départ. Donc, le suivi va se faire sur la mesure de la pression intraoculaire, le champ visuel et des examens du nerf optique qui analysent les fibres visuelles avec donc, ce qu'on appelle l'optical coherence tomographie, le OCT, qu'on va retrouver examen utilisé dans la DMLA. Diagnostiquer tôt et donc traiter suffisamment, donc on va espérer que la maladie n'évolue pas, ou très peu, et que le déficit de vision se stabilise. En l'absence de prise en charge, donc bien sûr, on va aboutir à une cécité complète. Et donc le but du traitement est donc d'arrêter la maladie sans pouvoir la faire régresser. Donc il y a plusieurs types de traitements. Le traitement principal, c'est donc la baisse de la pression intraoculaire. Il faut bien comprendre, je ne rentre pas trop dans les détails, mais qu'on peut avoir un glaucome sans avoir trop de pression dans l'œil. Donc il y a des gens qui peuvent faire des glaucomes avec des pressions dites dans les standards normaux, parce qu'ils ont des nerfs optiques un peu trop fragiles. Et donc c'est sur l'analyse de la tête du nerf optique qu'on va dépister la maladie, pas forcément sur la mesure de la pression intraoculaire. Donc on va voir l'ophtalmo pour regarder le nerf optique, hein, comment il est. Donc on peut avoir un glaucome sans forcément trop de pression, même si la plupart du temps c'est avec trop de pression. Et on peut avoir un peu trop de pression dans l'œil sans avoir un glaucome. Et ne jamais faire de glaucome d'ailleurs. Donc après, en fonction de la situation, on va traiter ou pas. Voilà, c'est à nous de décider en fonction de pas mal de paramètres. Donc parfois on peut simplement, devant une légère hypertonie oculaire, simplement surveiller le patient et ne pas décider d'un traitement. Donc le traitement va reposer sur quoi? Face à une hypertonie oculaire ou face déjà à un glaucome. Si un glaucome, naturellement, le traitement s'impose, soit par collyre, soit par laser, soit par chirurgie. Donc en général, la séquence veut qu'on commence par le traitement médical, puis éventuellement un laser. Alors les lasers, il y a différentes sortes. Il y a les lasers qui font des petits trous dans l'iris pour éviter certaines formes de glaucome qu'on appelle les glaucomes à angle fermé. Et il y a le laser qui a pour but de favoriser la baisse de pression pour relancer un peu le système de filtration à l'intérieur de l'œil. Et après, il y a la chirurgie. Lorsque on a une maladie évoluée ou lorsque le contrôle de la maladie échappe un peu au traitement médical ou au laser, on a la chirurgie pour essayer de faire donc baisser cette pression et protéger donc ce nerf optique. Donc c'est une chirurgie qui n'est pas faite pour augmenter la vision, pour améliorer la vision, et c'est fait pour sauver du nerf optique simplement. Donc c'est un peu ingrat comme chirurgie. Donc il vaut mieux dépister tôt pour essayer de se contenter d'un traitement médical ou laser. Traitement médical, on va reposer sur plusieurs types de collyres, des bêta-bloquants dont l'effet indésirable est surtout sur le plan général, contre-indiqué en cas d'asthme ou de problème de cardiaque, on va dire, et d'autres molécules qui ont peu d'effets indésirables sur le plan général, mais surtout sur le plan local, qui augmentent un petit peu la longueur des cils, qui entraînent des blépharites, qui entraînent les yeux rouges un petit peu. Voilà un peu tous ces effets indésirables que l'on peut observer avec le traitement par collyre. Donc c'est une maladie quand même relativement fréquente et de plus en plus fréquente, qui touche plus de 2% de la population de 45 ans. Donc il y a de nombreuses personnes en France qui ne sont pas dépistées et qu'il faut qu'elles le soient. Donc il faut passer régulièrement voir ses ophtalmos pour mesurer sa pression, analyser son nerf optique et voir si on a des facteurs de risque de développer un glaucome ou pas, ou d'autres pathologies d'ailleurs. Dans les pays développés, c'est une des premières causes de cécité absolue, associée bien sûr à la dégénérescence maculaire et la cataracte, en sachant que toutes ces maladies peuvent se cumuler en plus. un peu plus, ça rend la prise en charge un petit peu plus complexe. Parfois, on peut être amené à opérer et la cataracte et le glaucome en fonction du contexte. Voilà, quelques noms d'associations, si vous voulez rechercher sur Internet quelques informations supplémentaires sur cette pathologie. Merci.
Alors moi, je vais vous parler de cataracte. Je pense qu'ici, tout le monde sait ce que c'est, soit parce que vous avez été opéré, soit que vous avez dans l'entourage une personne qui a subi cette intervention. Alors c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, surtout après 60 ans. Ce sont les formes séniles, mais les cataractes avant 60 ans ne sont pas exceptionnelles. Elles peuvent être précoces. On a également des cataractes congénitales qui peuvent apparaître très tôt, au moment de la naissance ou dans les mois qui suivent. Et également, parmi les causes, des cataractes post-traumatiques. Alors moi, je vais vous parler surtout de la cataracte après 60 ans, avec les circonstances de découverte qui peuvent être soit à l'examen systématique, le patient se plaignant peu, soit parce qu'il a une baisse d'acuité visuelle progressive avec une sensation de brouillard, de voile, de loin, de près, parfois des dédoublements d'image. Alors la cataracte se situe au niveau du cristallin, qui est cette petite lentille qui est située derrière l'iris, qui est ovalaire, voilà. Elle est un petit peu comme un oignon, elle est formée de plusieurs couches et d'une partie centrale. Donc la cataracte, les opacités peuvent apparaître soit au centre, et à ce moment-là elles sont très gênantes, soit en périphérie, moins gênantes, mais elles vont entraîner des brouillards et des photophobies, c'est-à-dire des éblouissements très importants à la lumière. Alors je vous ai mis ici plusieurs types de cataractes. Ici, des cataractes qui est centrale, qui est très gênante parce qu'elle déforme les images. On voit souvent ça chez des patients qui ont pris des médicaments comme la cortisone ou qui sont diabétiques. Plus classique, la cataracte qui entraîne un aspect brunâtre, qui est dû donc à la densification, à l'opacification centrale. Ceci va entraîner des modifications de la vision des couleurs. Et souvent, les patients décrivent, ils ne sont pas toujours conscients, mais voient les couleurs s'atténuer, devenir très ternes. Ici, une cataracte bien centrale, on la voit. Et enfin, une cataracte un peu historique, hein, qu'on voit plus beaucoup, qui est totale, avec un aspect blanchâtre de l'aspect de la pupille. Alors, le traitement, il n'est que chirurgical. Il n'existe pas de moyens médicaux qui préviennent à la cataracte. Je vais vous montrer un film tout à l'heure, mais sachez que c'est basé sur la phacoémulsification, c'est-à-dire l'utilisation d'ultrasons qui vont aller émulsifier le noyau central et aspirer toute la partie centrale de cette lentille. En fait, on va enlever que la partie centrale et on va laisser les capsules, la capsule postérieure qui entoure le noyau. À l'intérieur du sac qu'on a libéré, qu'on a nettoyé, on va pouvoir mettre un cristallin artificiel. Alors ce cristallin artificiel, il est adapté à l'œil du patient et pour le mettre, on va pratiquer une biométrie qui nous permettra de savoir exactement la puissance de ce cristallin artificiel. Alors il faut savoir que cette opération peut, une fois qu'elle est réalisée, entraîner plus tard des cataractes secondaires. Et il ne faut pas confondre la cataracte normale avec une cataracte secondaire. C'est simplement que la capsule qu'on a laissée s'est opacifiée, laisse des masses. Et on peut avoir dans les mois ou les années qui suivent l'opération de la cataracte une baisse à cause de cette fibrose, de ces petites cellules qui se déposent sur la capsule. Mais ça, ça ne s'opère pas, ça se traite au laser YAG, si nécessaire. Alors je vous ai mis ici une photo de ces cataractes secondaires avec des petites perles. Alors nous allons reparler des implants, des cristallins artificiels. Il y a plusieurs types d'implants. Celui qu'on met le plus fréquemment, ce sont les implants monofocaux. Donc vous voyez ici, je vous en ai mis deux. Vous avez une partie centrale qui va permettre donc à l'image d'aller se former sur la rétine. Et la partie, cette partie centrale doit être très bien centrée dans l'œil pour qu'on puisse bien voir. Et ceci se fait grâce à deux petites, ce qu'on appelle des aptiques, hein, deux petites anses qui vont aller positionner, qui vont se positionner dans le sac et qui vont permettre d'avoir une partie centrale bien centrée. Alors bon, il y en a de plusieurs types. Il y a également des implants colorés qui permettent de filtrer la lumière bleue. On sait que la lumière bleue du spectre de la lumière est toxique pour la macula, en particulier chez les patients qui ont une DMLA ou qui ont des prédispositions à la DMLA. Et donc, on a développé ce type d'implant pour diminuer les risques dus à la lumière bleue. Les implants multifocaux sont en train de se développer. L'avantage des implants multifocaux, c'est qu'ils vont permettre de voir à la fois de loin et de près. Ces implants, en fait, je ne sais pas si vous voyez très bien, ils ont des cercles concentriques qui permettent de modifier la position de l'image en fonction de ce qu'on regarde. Au centre, on va voir plutôt en haut de près et en périphérie plutôt de loin. Alors, ça n'est pas tout à fait comme des cristallins, comme un cristallin normal qui accommode, qui permet de voir de loin et de près, mais ça entraîne un confort indéniable aux patients. Mais il faut savoir qu'il y a des effets secondaires. Ces cercles concentriques peuvent entraîner des halos lumineux, en particulier la nuit à la conduite automobile, et ça peut être gênant. Il faut savoir également qu'ils ne donnent pas ils permettent d'être confortable dans 90% du temps, mais que pour lire des toutes petites lettres, il faudra ajouter une correction complémentaire. Ces implants multifocaux, on peut les mettre chez des patients sélectionnés qui ont une rétine en très bon état, qu'il n'y a pas de dégénérescence maculaire, par exemple, et qui ont des cristallins tout à fait qui sont bien au sens centré. Enfin, il existe des implants toriques. Hein. Les implants toriques permettent de corriger l'astigmatisme. Certains yeux sont plutôt de forme ovalaire avec sur les axes des réfractions différentes, et donc pour améliorer cet astigmate, enfin les déformations que cela peut induire, on peut proposer des implants qui corrigent plus dans un axe que dans l'autre. Ce sont des implants toriques. Alors il faut savoir que les implants multifocaux et les implants toriques ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qu'il y a un surcoût. Par contre, les implants monofocaux, eux, qui sont le plus fréquemment posés, sont pris en charge. Alors, l'opération est une opération qui se fait le plus souvent en ambulatoire. Le patient vient, il est opéré, il repart 2 heures après la chirurgie, sous anesthésie topique pure, soit par collyre, soit par anesthésie. Ce qu'on appelle anesthésie sous-ténonienne, on fait une petite injection anesthésique sous la conjonctive. C'est une opération qui ne demande pas d'arrêt d'anticoagulants ou des antiagrégants parce qu'elle n'est pas du tout hémorragique. Elle nécessite un traitement local pendant un mois environ d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, et la restitution visuelle se fait environ en 8 jours, pour peu que la rétine derrière soit en bon état. Alors, je vais vous passer un film. Je pense que je vais pouvoir le mettre. Donc vous voyez ici, on fait une toute petite incision. On va travailler à deux mains, à droite et à gauche. Voilà, on fait une ouverture dans les lames de la cornée. On va aller découper la capsule antérieure. Alors ici, on le fait à la pince. Il y a des nouvelles techniques qui utilisent le laser femtoseconde et qui permettent d'avoir des capsules antérieures beaucoup plus régulières. On injecte ici du sérum qui va permettre de mobiliser le noyau à l'intérieur du sac capsulaire. Voilà le phacoémulsificateur. Cet appareil, donc, avec les ultrasons, va émulsionner le noyau central. Il utilise beaucoup de sérum parce que les ultrasons peuvent chauffer. Ça permet de diminuer donc les risques de brûlure de la cornée. Une fois que la partie centrale, qui est la plus dure, a été enlevée, on aspire toutes les masses qui restent en périphérie. Là, on n'a pas besoin d'utiliser les ultrasons, c'est simplement de l'aspiration. Vous voyez ici qu'il reste des toutes petites cellules qu'on lave, qu'on polie. On enlève le maximum de cellules pour diminuer les risques de cataracte secondaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, on va aller positionner l'implant qui est plié ici à l'intérieur d'une capsule et qui est injecté dans l'œil. Vous voyez, dans l'œil, il se déplie. Les aptiques vont permettre de bien centrer la partie centrale, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, à la fin, on aspire tous les produits, toutes les cellules qui restent. Voilà, il n'y a pas le plus souvent de suture. Hein. C'est une incision auto-étanche qui va être parfaitement étanche au bout de 8 jours environ. Voilà, je vous remercie.
Merci, merci Michel. Hein. Le glaucome a beaucoup bénéficié des traitements médicaux. Les collyres ont été une révolution dans le glaucome. La chirurgie joue un rôle très important, mais le docteur Mercier vous a expliqué que c'est plutôt à des stades un peu plus tardifs quand le traitement médical ne fonctionne pas. La cataracte, par contre, actuellement, on la traite que par la chirurgie quand il y a une atteinte visuelle. Et vous voyez bien, vous l'avez vu sur le film, que ce n'est pas de la chirurgie si simple. On entend souvent parler de la cataracte. Les patients ont parfois une idée que c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas une chirurgie si simple que ça. On fait des incisions de 2 mm, hein, parfois un peu moins, dans la cornée. Ça demande beaucoup de méticulosité. Et donc, il faut vraiment... Il y a des complications potentielles. Donc, on opère les patients qui ont une cataracte le jour où ils sont un peu gênés. On n'opère pas les patients comme ça parce qu'ils ont une cataracte. Une cataracte, il n'y a pas d'intérêt à l'opérer si le patient n'a aucune gêne visuelle et si le patient voit encore relativement bien, n'est pas gêné dans les activités de la vie quotidienne. Merci Michel. Je vais vous parler maintenant de la rétine. Donc j'ai focalisé sur deux choses, la DMLA et les décollements de rétine. Donc une pathologie médicale pure et une pathologie plutôt chirurgicale. Alors, j'ai malheureusement pas de film. Je devais en avoir, mais je n'ai pas pu récupérer les films en temps voulu. Donc alors, tout d'abord, pour situer un peu les choses sur la rétine, la rétine, elle est à l'arrière de l'œil, donc on ne la voit pas normalement à l'état physiologique, sauf quand on prend une photo avec un flash, on a un aspect parfois orangé, vous voyez le flash quand on prend les photos de famille, et l'aspect orangé, c'est la réverbération en fait, de la lumière par la rétine. Et c'est comme ça que, par exemple, M. Champin en parlait, qu'on peut dépister des pathologies rares, par exemple des tumeurs oculaires, qui arrivent chez des enfants, on appelle ça des rétinoblastomes, sur des clichés comme ça de famille, on a un aspect pas normal d'un reflet, et on peut dépister des pathologies, des tumeurs oculaires, notamment comme ça. Donc la rétine, c'est un tissu neurologique, hein, fait de plusieurs couches de cellules différentes, mais neurologiques, donc ça, ils ne peuvent pas se multiplier, ces cellules. Donc quand elles sont lésées définitivement. Et elles sont situées donc à l'arrière de la rétine, situées entre une circulation de la rétine devant la rétine, et il y a une autre circulation qui est derrière qui s'appelle la choroïde. Et la lumière vient de l'extérieur, traverse le cristallin et la cornée, ce sont des systèmes optiques simplement transparents, et c'est dans la rétine que l'information visuelle est traitée et est transformée en signal électrique qui va passer par le nerf optique et qui va arriver jusqu'au cerveau. Alors ça, c'est une image de la rétine telle qu'on la voit au fond d'œil, avec le nerf optique, les vaisseaux de la rétine, hein, les artères et les veines. Les artères sont plus claires parce que le sang est oxygéné, les veines sont un peu plus sombres, et le centre de la rétine, ça s'appelle la macula. Et la macula, c'est la fameuse dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui se traduit par des gènes visuels, une baisse visuelle, et ça n'occupe que 5% à peu près de la surface de la rétine, mais ça représente 30% des zones corticales. Il y a d'autres pathologies qui touchent la macula, comme les dystrophies rétiniennes, et là aussi ça se traduit par une baisse visuelle. Donc, comme vous l'a expliqué Martial, les pathologies de glaucomateuses entraînent une baisse visuelle très tardive, parce que ça touche la périphérie. Par contre, les pathologies maculaires sont très rapidement symptomatiques. Un patient qui a une DMLA, il va se plaindre d'une baisse visuelle, de déformation, de voile, d'une tache noire devant l'œil. Et donc, il va consulter relativement précocement, si tant est qu'il s'en rend compte. Parce que quand on a les deux yeux qui fonctionnent, s'il y a un problème d'un côté, l'autre œil va neutraliser ce problème, et les patients vont parfois consulter tardivement parce qu'ils ne s'en rendent compte que tardivement. Alors, la DMLA tout d'abord. La DMLA, c'est une pathologie qui est relativement complexe, pour laquelle on a des traitements qui sont relativement récents. Relativement récents, c'est-à-dire que dans les années 2000, on a commencé à avoir des traitements potentiellement efficaces, la thérapie photodynamique et la visudine, mais qui ne montrent pas d'efficacité à long terme, qui permet au mieux de stabiliser les choses. Et à partir de 2007, on a commencé à avoir des injections pour la forme humide de la maladie. Ce sont des injections intravitraines dont vous avez certainement entendu parler et qui permettent de stabiliser, voire d'améliorer un peu les choses. Mais la DMLA, pendant des années, elle va rester asymptomatique. C'est-à-dire que les patients ne vont se plaindre de rien. Ils vont vaquer à leurs activités quotidiennes sans se plaindre d'une baisse de vision. Néanmoins, au fond d'œil, on pourra dépister des pathologies. C'est-à-dire que si vous allez voir votre ophtalmologiste avant même que vous plaigniez de quelque chose, on pourra voir au fond d'œil des petites anomalies de la rétine. Vous voyez des petites taches blanches là au niveau du fond d'œil, de ce côté-là. Ça, c'est l'œil droit. Et ça, c'est l'œil gauche. Et ces taches blanches, on les appelle des drusen. Et les drusen, c'est la forme débutante de la DMLA. Ce patient qui a ces lésions-là, il peut avoir tout à fait 10 dixièmes et ne se plaindre de rien. Et donc, l'important de faire le dépistage de la DMLA, c'est que quand on a un patient qui a ça, il a 70 fois plus de risque de développer une DMLA dans l'avenir qu'un patient qui n'a pas ça. Donc c'est un facteur de risque majeur. Et un patient qui a ça, globalement, dans les 10 ans, il a un risque quand même de plus de 50% de développer un jour la DMLA. Alors, ce patient-là, il peut avoir ça à l'âge de 60 ans. Néanmoins, il peut évoluer vers une DMLA qu'à l'âge de 80 ans. Donc, c'est pas parce qu'on a ça qu'on est condamné. Globalement, on peut voir très bien pendant des années avec ça, mais l'important, c'est de se surveiller après. Surveiller en regardant, vous savez, on vous donne des grilles, souvent, des quadrillages à regarder d'un côté et puis de l'autre pour voir s'il y a des déformations, s'il y a des symptômes qui laissent entendre qu'il y a une pathologie maculaire qui se développe. Les symptômes, c'est des déformations visuelles, une tache noire, une baisse visuelle, vous en avez entendu parler. Et ça voudrait dire qu'il y a une évolution de cette forme-là qui est finalement relativement mineure vers une forme plus sévère. Et les formes plus sévères de la DMLA, elles sont au nombre de 2 globalement. On parle des formes exudatives ou des formes humides. Les formes humides, ça se traduit par l'apparition de néovaisseaux sous la rétine. Des vaisseaux anormaux, un peu comme dans d'autres pathologies. Ces vaisseaux anormaux vont apparaître sous la rétine. Et ils sont anormaux parce qu'ils vont entraîner des saignements dans la rétine. Alors vous comprenez que si devant les photorécepteurs, il y a du sang, eh bien les photorécepteurs vont plus pouvoir transformer l'information visuelle en information électrique. Et donc cette tache de sang va se traduire pour le patient par une tache noire. Il va se plaindre d'un voile noir, d'un scotome. On parle de scotome central, là. Donc il va se plaindre d'une tache noire de l'œil gauche, et effectivement, au fond d'œil, on verra une hémorragie. Et ça nous fera réaliser des examens complémentaires. Par exemple, une angiographie, un examen qui va permettre de visualiser les vaisseaux de la rétine. Et l'angiographie permettra de mettre en évidence, par exemple, les néovaisseaux et pouvoir les traiter. Donc ça, c'est la forme exudative de la maladie. Cette forme-là, elle a un traitement depuis 2007. Enfin, elle avait un traitement en 2000, mais qui ne fonctionnait pas très bien. Mais depuis 2007, il y a les injections intravitraines qui permettent de faire régresser ces néovaisseaux. Ils vont régresser au prix quand même de plusieurs injections. En moyenne, il y a quasiment 7 injections la première année de traitement. Et c'est une pathologie chronique, la DMLA. Donc les années suivantes, il y aura probablement nécessité d'injections. Il y a environ 15% des patients qui n'ont besoin que de quelques injections et puis après ils sont quittes. On ne sait pas précisément pourquoi, mais certains patients auront cette chance-là. D'autres patients auront besoin d'injections quasiment tous les mois pour se maintenir et pour pouvoir garder une activité, des activités quotidiennes pour, en gardant une bonne acuité visuelle. Ces formes-là peuvent évoluer, si on ne les traite pas, faire des formes plus sévères, simplement parce que les néovaisseaux vont se développer progressivement dans la rétine. Hein, les néovaisseaux vont se développer, vont fibroser, ça c'est de la fibro, c'est une cicatrice, ou ils vont saigner, et ça c'est un hématome sous la rétine, voyez. Donc c'est pour ça qu'on traite les patients, même si parfois on ne fait que stabiliser les choses, ben chaque mois gagné pour le patient, ben c'est un mois utile pour lui, parce qu'on lui maintient son acuité visuelle, ça c'est important de le savoir. Il y a d'autres... Alors les injections intravitraines, ça se fait dans des salles dédiées. Le patient vient, on lui met de la bétadine, on désinfecte et on pique dans le blanc de l'œil et on injecte un volume très, très faible, hein, 0,05 ml dans le blanc de l'œil. Et ce produit va permettre de faire régresser les néovaisseaux. L'autre forme de la maladie, c'est la forme atrophique ou sèche, dont vous avez probablement moins entendu parler parce que cette forme-là ne bénéficie pas de traitement. Et dans la mesure où elle ne bénéficie pas de traitement, on n'en parle pas beaucoup, effectivement. Et cette forme-là, elle se traduit par la disparition de cellules de la rétine, des photorécepteurs. C'est-à-dire que sous les drusènes, c'est des dépôts qui se situent sous les photorécepteurs, et ces dépôts-là, à terme, vont être toxiques pour la rétine. Donc à force de s'accumuler, ça va entraîner la disparition des cellules qui sont au-dessus, et ça va entraîner donc une disparition des photorécepteurs de la rétine. Alors, il n'y a pas de ces photorécepteurs-là. Et donc, ça va donner, là aussi, des taches qui vont être définitives, parce qu'à l'endroit où il n'y a pas les photorécepteurs, ben, ça apparaîtra comme un scotome pour le patient, comme une tache noire. Alors, vous comprenez que quand on a une DMLA atrophique ou une DMLA exudative bilatérale, on est très gêné pour la lecture. Très gêné pour la lecture, pour les activités de la vie quotidienne, pour la conduite, hein, notamment. Et donc ça pose des gros problèmes évidemment de santé publique après pour l'autonomie. Et ces lésions-là atrophiques vont évoluer progressivement vers des plages d'atrophie de plus en plus étendues et ça va entraîner une baisse de vision importante. Alors là, il y a deux systèmes qui s'opposent, enfin qui sont en parallèle plutôt. Il y a le champ visuel et l'acuité visuelle. Martial vous a parlé plutôt du champ visuel. Le glaucome touche le champ visuel. L'acuité visuelle est touchée tardivement. La DMLA, elle touche l'acuité visuelle. Et vous comprenez quand on voit ça que le reste de la rétine est normal. Donc les patients ont une acuité inférieure à un dixième, ils voient mal. Vous leur demandez de lire, ils n'arrivent pas à lire. Ils ne peuvent pas conduire parce qu'ils ont un voile noir devant au centre de l'œil. Mais ils peuvent se promener. Ils peuvent vaquer à leurs activités quand même quotidiennes, aller au jardin, aller au marché. Parce que simplement, la périphérie est préservée, ça leur permet quand même une certaine autonomie. Sauf que pour les activités d'acuité visuelle, ils ne peuvent plus le faire tout seuls. Je voulais vous parler de la myopie, c'est l'introduction au décollement de rétine. La myopie, c'est une pathologie aussi très importante, ça touche 2% de la population. Qui est myope parmi vous? Vous voyez? Alors, la myopie forte touche 2% de la population. J'aurais dû le préciser. Mais la myopie, en général, c'est environ 40%. Qui est myope parmi vous? Oui, on est à peu près à 40%. Là, voilà. Poitiers est souvent utilisé comme échantillon représentatif de la population française. Voyez. Et donc la myopie, 40%. La myopie forte, 2% seulement. Et la myopie forte, ça se traduit par un œil qui est plus grand que l'œil normal. Et c'est pour ça que les myopes ont des verres qui diminuent, parce qu'ils ont des verres divergents pour amener l'image sur la rétine. L'œil est plutôt ovalaire chez les myopes, et donc l'image se forme sans lunettes, elle se forme devant la rétine. Et il faut des verres qui envoient l'image plus loin pour focaliser l'image sur la rétine. Là, c'est un œil de myope. Normalement, un œil, c'est rond. Hein. Et là, vous voyez, les yeux de myope sont parfois tellement étendus que il est même plus rond. Là, il est, on dirait, je ne sais pas quoi, une selle. Ils sont très déformés. Et les yeux de myope ont des pathologies, justement. Il faut comprendre que l'œil de myope va s'étirer progressivement. Ça peut atteindre 32 mm, voire plus, alors qu'un œil normal, c'est plutôt aux alentours de 20 mm. Et ils vont s'étirer, alors que, je vous l'ai dit, le tissu rétinien, c'est un tissu qui ne se multiplie plus, qui est définitif. Et donc, en s'étirant, ça va entraîner des lésions très importantes, notamment des lésions d'atrophie. Hein, c'est un peu comme de la pâte à crêpes. Si vous en mettez dans une petite louche dans une grande poêle, ça fait une crêpe dentelée. Et ben là, c'est pareil. À force de s'étirer, ça entraîne des altérations de la rétine qui sont très importantes et qui vont entraîner des baisses de vision. Et ça, chez des patients qui peuvent avoir 20 ans. Là, les photos que je vous montre là, ce sont des patients qui ont environ 50, 60 ans. Les yeux myopes, vous voyez, là c'est la macula du myope, hein, la macula d'un myope, une macula particulière. Vous voyez, elle est pas. Normalement, c'est creux, là, hein, c'est le centre de l'œil est là, donc normalement c'est creux. Et là, vous voyez, c'est complètement bombé. Hein, donc il y a des pathologies du myope qui sont très fréquentes. Alors les myopes, ils font aussi des néovaisseaux, comme dans la DMLA. Ils peuvent souffrir de néovaisseaux comme dans la DMLA. Et très souvent, d'ailleurs, on a parlé pour eux à tort de DMLA. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, en 2007, l'autorisation de mise sur le marché pour les injections pour la DMLA, on ne l'avait pas pour les myopes. Alors que les myopes, ça marche aussi très, très, très bien. Et mieux que dans la DMLA où il y a beaucoup besoin de moins d'injections. Et donc, à une époque, on disait, vous avez une DMLA, mais en fait, c'est des myopes qui avaient des néovaisseaux du myope. Donc, voilà. Et les myopes ont pu bénéficier officiellement des injections uniquement en 2012. Vous voyez, 5 ans après la DMLA. Les myopes font des plages d'atrophie, un peu comme dans la DMLA sèche. Les myopes font des hémorragies. Aussi un peu comme dans la DMLA, parce que certaines parties de la rétine se brisent, parce que l'œil est allongé, et ça fait saigner. Et ils ont parfois des trous dans la rétine, au centre de la rétine, parce que, encore une fois, le tissu rétinien est très étiré, et ça donne des trous dans la rétine. On parle de trous maculaires. Les trous maculaires, on peut les voir chez les patients normaux, mais on peut aussi les voir chez les myopes. Et ils ont aussi, vous voyez, le fait que la rétine soit très étirée, ils ont aussi d'autres pathologies qu'on appelle par exemple des rétinoschisis ou des membranes. Donc les myopes ont vraiment des gros gros problèmes de rétine et il faut pour cela, quand on est myope, être dépisté régulièrement. Et il y a une idée fausse qu'on entend souvent, c'est la chirurgie réfractive. Les patients myopes qui ont été opérés de chirurgie réfractive, par erreur, souvent ils pensent qu'ils sont guéris de leur myopie. Ils sont guéris du point de vue réfractif. L'image, on a sculpté la cornée pour amener l'image sur la rétine, mais les pathologies elles-mêmes de la rétine persistent. Donc il faut continuer, quand on est myope et quand on a été opéré de chirurgie réfractive, d'être dépisté régulièrement par son ophtalmologiste traitant pour rechercher des pathologies de la rétine. Et ça me fait introduire en fait le décollement de rétine, parce que le décollement de rétine, c'est le risque principal de décollement de rétine, c'est les patients myopes aussi. Parce que vous l'avez compris, l'œil est grand, l'œil est long, donc ça entraîne des déchirures de la rétine. Et par ces déchirures, il y a du liquide qui va passer sous la rétine et ça va décoller la rétine. Alors le décollement de rétine, là aussi, comme la cataracte, c'est principalement un traitement chirurgical. Il apparaît classiquement plutôt après 50 ans parce que, pour faire un décollement de rétine, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, enfin je ne vous l'ai pas expliqué, mais dans l'œil, il y a un gel qu'on appelle le vitré. C'est un gel c'est gélatineux, et ce gel permet déjà d'être transparent, et il permet de donner une certaine forme à l'œil, bien sûr. Et avec le temps, en vieillissant, ce gel va se liquéfier, il va y avoir des poches de liquide, et ça va entraîner ce qu'on appelle un décollement postérieur du vitré. Le décollement postérieur du vitré, ça entraîne souvent les corps flottants. Vous avez tous entendu parler de corps flottants un jour, c'est le décollement du vitré qui entraîne ces impressions. Et en se décollant, le vitré peut déchirer la rétine à certains endroits, et c'est ça qui va initier le décollement de rétine. Alors, les déchirures de la rétine, on fait le dépistage, on fait le fond d'œil. Pourquoi ? Pour rechercher des déchirures de la rétine. Parce que les déchirures de la rétine, on peut les traiter par du laser. Vous voyez, ça, ce sont des impacts de laser qu'on a fait autour d'une déchirure de la rétine qui était située ici. Et le patient, une fois qu'il a eu ça, une fois que c'est cicatrisé, il est protégé, en tout cas de ce côté-là, de faire un décollement de rétine. Après, il faudra le surveiller régulièrement, parce que bien entendu, on peut toujours avoir une déchirure ailleurs. Alors voici un décollement de rétine. Vous voyez, tel que ça apparaît, nous, quand on les voit au fond d'œil, les patients, vous voyez, là, la rétine est à plat. On dit qu'elle est à plat parce qu'elle n'est pas décollée. Et là, il y a cette grosse poche-là, liquidienne, parce que le décollement de rétine, c'est encore une fois du liquide qui va passer sous la rétine. Et je donne souvent l'image d'une tapisserie, vous savez, ondulée, quand il y a du liquide, quand il y a de l'humidité. Et bien là, c'est pareil, vous voyez, il y a du liquide qui est passé sous la rétine, et ça fait une poche. Alors, le décollement de rétine, il faut l'opérer rapidement, parce que c'est une urgence. On l'opère comment? En faisant ce qu'on appelle une vitrectomie. Et on va rentrer dans l'œil, on va enlever le vitrée, le gel du vitrée, et on va ensuite on va refermer le trou par lequel passe le liquide, et on va souvent mettre du gaz à la fin pour tamponner la déchirure et pour permettre la cicatrisation de la déchirure de la rétine. Je vous remercie. On était un peu à l'étroit.
Alors, vous pouvez poser vos questions dès maintenant en utilisant la petite feuille si vous ne voulez pas parler dans le micro ou en levant la main et je viens vous donner le micro pour que vous puissiez poser vos questions.
Bonjour tout le monde. Oui, ma question, monsieur, c'est que j'ai été opéré lundi, là, par la cataracte. Et puis, ils m'ont mis des machins de suture, là. Il y en avait deux. Et normalement, il y a une grande partie des personnes qui n'ont pas ça. Je voulais savoir pourquoi. Moi, j'ai eu des points de suture. Voilà. La deuxième question, c'est-à-dire, il faut combien de temps pour que soit vraiment guéri, pour bien, ça veut dire pour voir la vue ancienne, quoi.
Alors, en pratique, docteur Boissonneau vous l'a expliqué, souvent on ne met pas de points. On ne met pas de points de suture, mais il arrive parfois que l'incision, elle fuit encore, malgré tout, parce que simplement ça peut être des raisons anatomiques, où l'œil est trop gros, ou l'œil. Enfin bon, ça peut fuir un peu. Alors dans ces cas-là, on met un point de suture. Ça ne change rien par rapport au pronostic à long terme. Hein. Le point de suture, c'est simplement parce qu'on veut prendre, une précaution avec vous. Si l'œil fuit encore, on met un point de suture pour éviter que l'œil se vide, en fait. Donc on met un point de suture qui est retiré souvent quelques jours après l'intervention, parfois une semaine après, parfois un peu plus. Et ces points-là n'entraînent pas du tout de problème particulier. Et la récupération visuelle pour la cataracte, classiquement, on fait les lunettes aux alentours de un mois après la chirurgie.
Alors, tout de suite après l'opération, on peut avoir un petit œdème de cornée, hein, qui est dû au fait que les ultrasons agissent sur la cornée. Et ça met 8 à 15 jours à disparaître. Donc ce n'est pas inquiétant d'avoir une vision un peu floue tout de suite après l'opération. Ça va s'atténuer.
Quand on opère la cataracte, on fait les incisions sur la cornée. Donc ça peut moduler un petit peu les axes de courbure de la cornée. Des fois, on met un point aussi pour éviter qu'il y ait un astigmatisme qui survienne, pour essayer de moduler ça, simplement. Oui.
Oui. Voilà. Donc, vous avez entendu, j'espère.
Oui, je sais. Voilà. Ça va finir par s'arrêter.
Donc, ça va finir de cicatriser. Oui.
Ou éventuellement, des fois, on peut être amené à remettre un point malgré tout. Ça peut arriver. Et c'est... Je suis au courant.
Je voudrais savoir pourquoi on ne fait pas systématiquement un fond d'œil quand on va voir l'ophtalmo.
C'est-à-dire, normalement, on fait toujours un fond d'œil, mais parfois, on ne le dilate pas. On peut faire des fonds d'yeux avec des petites lentilles qui nous permettent de voir le pôle postérieur. Lorsqu'on veut examiner la rétine, effectivement, enfin la rétine complètement, on dilate. On met un collyre qui permet de dilater. Mais déjà, rien qu'en regardant sans dilater, on a pas mal d'informations. C'est pas systématique, mais le fond d'œil l'est.
Est-ce qu'il y a un risque lorsqu'il y a un grain de beauté sur la rétine? Quelle est la marche à suivre?
Alors, quand il y a un grain de beauté sur la rétine, ça s'appelle un névus, hein, pour scientifiquement. Ben, il faut le surveiller. Parce que le risque principal, c'est que ça se transforme. Ça se transforme en mélanome. Donc il faut le surveiller. On le surveille régulièrement. On prend des photos, on prend des mesures. On peut faire une échographie, par exemple, pour mesurer l'épaisseur du grain de beauté. Et il faut surveiller le patient. Après, en fonction de sa localisation, de sa taille, la fréquence de surveillance peut varier. Mais avec les imageries qu'on peut avoir maintenant, on peut tout à fait suivre les patients régulièrement avec des images, une imagerie très précise. Et dès lors que la taille du grain de beauté se modifie, ou si on a des signes qui nous font évoquer une transformation en mélanome, on adresse rapidement le patient après à un centre spécialisé, par exemple comme à Curie à Paris.
C'est comme pour les grains de beauté, sur la peau.
Sauf qu'on voit plus sur la peau.
Oui, oui, oui.
Alors, une question pour le professeur Levéziel. Est-ce que vous travaillez sur le traitement de la DMLA et à d'autres pathologies par les cellules souches? Si oui, quelle forme de la DMLA peut être soignée?
Alors effectivement, c'est une bonne question. On vous a parlé, je ne voulais pas faire de, entre guillemets, de publicité tout à l'heure, mais puisqu'on me pose la question, j'en profite. On travaille, oui, sur la DMLA. Je vous ai expliqué qu'il y avait des traitements des injections, mais le problème des injections, enfin c'est pas un problème, mais les injections traitent une complication de la DMLA. Mais la maladie elle-même, on n'a pas de traitement de la maladie elle-même. On ne sait pas comment empêcher l'apparition des drusen, par exemple, ou la maladie. Et pour ça, donc on a développé de la recherche à Poitiers. On travaille effectivement sur les cellules souches. Dans une unité INSERM dirigée par Mohamed Jaber, d'ailleurs c'est l'unité 1084, et j'ai une doctorante effectivement qui travaille dessus. On a des collections biologiques, c'est-à-dire qu'on peut prélever du sang de patients, évidemment ça passe par un comité d'éthique, on prélève du sang de patients, on leur demande leur accord, hein, et on peut transformer le sang du patient, des cellules sanguines du patient, en cellules de la rétine. Et l'idée c'est de comparer des patients qui ont une DMLA à des patients qui n'ont pas de DMLA au niveau des cellules de la rétine pour essayer de comprendre pourquoi certains patients vont développer une DMLA et certains ne vont pas en développer. Donc il y a des travaux qui sont en cours. On va d'ailleurs présenter à Baltimore prochainement nos travaux et puis on devrait les publier parce qu'on avance relativement bien dans ce sujet. Et ça, c'est dans la fondation Aliénor, dans le fonds Aliénor. On a été primé l'année dernière pour ce projet de recherche qui va commencer plus précisément sur une forme particulière de DMLA très prochainement.
Oui, je vous remercie. J'ai eu des réponses à des questions que je pouvais me poser, donc grâce à cette intéressante conférence. Mais j'ai une question et puis une précision à vous demander. Dans le cas d'une jeune femme qui a été opérée d'une myopie par laser, est-ce qu'elle doit désormais consulter régulièrement un ophtalmo tous les ans, tous les deux ans, ou attendre d'être plus âgée?
Alors, c'est vrai que ça, c'est une question importante. Ça dépend un peu de son degré de myopie. De toute façon, il faut qu'elle continue le suivi, ça c'est clair.
D'accord.
Mais en fonction du degré de myopie, des anomalies qu'il y a au fond d'œil, ça peut être une consultation tous les ans ou une consultation tous les deux ans, par exemple, si on juge qu'il n'y a pas d'évolution dans sa pathologie. Mais effectivement, quand on opère la myopie, celle s'appelle la chirurgie réfractive, on ne corrige pas les problèmes de rétine.
D'accord.
Et pour ça, il faut se faire suivre régulièrement.
Donc ça, c'est bien, je vous remercie. Alors l'autre question, c'est moins intéressant parce qu'il s'agit d'infections des paupières supérieures, inférieures, récidivantes. Donc l'ophtalmo a donné un traitement collyre antibiotique, 3 semaines, arrêt 3 semaines, à nouveau 3 semaines, et puis finalement ça revient, ça recommence. Quid, qu'est-ce qu'il faut faire?
Souvent, c'est ce qu'on appelle des blépharites, en fait, cette petite inflammation du bord libre des paupières, qui ne sont pas graves, mais un peu enquiquinantes au quotidien. Ça peut devenir grave, hein, parce que ça peut altérer la cornée à terme. Il faut faire des soins de paupières, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il faut chauffer les paupières, les masser, faire des frottements de la base des cils. C'est tout des soins au quotidien qu'il faut faire régulièrement pour éviter d'être enquiquiné avec ces petites... inflammation des bords libres des paupières qui vous pourrissent un peu la vue au quotidien.
D'accord. Merci.
En mettre des collyres antibiotiques au long cours, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, de temps en temps, on met des antibiotiques sur 2-3 jours, tous les mois ou tous les 2 mois. Bon, enfin, c'est bien encadré, quoi, théoriquement. C'est pas un collyre antibiotique pendant 3 semaines qui va gérer le problème du borrelia de la paupière. Il y a des soins vraiment mécaniques à faire.
Moi, je voulais vous demander, la myopie, c'est une maladie qui est transmise de façon génétique. Alors, comment fait-on pour éviter que les enfants se retrouvent dans les 2% malchanceux ?
Alors, les 2% malchanceux, c'est les myopes qui sont myopes de plus de moins 6 dioptries. Donc, c'est les très malchanceux, c'est 0,5% de la population. C'est à partir de moins 10 dioptries qu'on a plus de risques de complications. Et là, il n'y a malheureusement pas de traitement actuellement. C'est génétique, mais il y a plein de facteurs génétiques qui sont décrits. Donc on ne peut pas, bien sûr, faire un test. Ça n'aurait aucun sens de faire un test prénatal, hein, bien sûr. Donc il n'y a pas de traitement. Il y a des approches quand même. Dans les pays européens, on a de la chance, c'est qu'on est moins myope que, par exemple, en Asie, où en Asie, il y a quasiment 90% de la population qui est myope. Donc si on avait fait cette conférence en Asie, il y aurait quasiment toute la salle qui aurait levé la main. Et donc ça, c'est vraiment un problème de santé publique, au point qu'en Asie, ils ont adapté certaines écoles. On sait que, par exemple, il y a des facteurs de risque de progression de la myopie. Le travail de près, le travail sur tablette pourrait aggraver les choses. Alors notre mode de vie fait que ça a changé, hein. Et on travaille beaucoup plus sur tablette, sur écran qu'il y a 40 ans. Et ça, c'est très important parce que, justement, dans certaines écoles en Asie, ils obligent les enfants à lire d'un peu plus loin. Il y a des enfants avec carrément des barres de fer devant eux pour qu'ils ne puissent pas se rapprocher trop près du livre. Ça me fait penser un peu à une image d'une stabulation, vous voyez. Non, mais c'est vrai, hein, ils sont obligés d'être assez loin du livre pour lire. Et il y a aussi d'autres approches, on peut mettre des gouttes, mais on est gêné après, pour bloquer un peu l'accommodation et pour réduire l'évolution de la myopie, ou des lentilles, même des lentilles rigides qu'on porte la nuit, qui permettraient de stabiliser ou de diminuer la progression de la myopie dans des myopies pas trop importantes. Mais ça, ce sont des approches qui ne fonctionnent pas toujours, et en tout cas pour les myopes très forts, c'est des approches qui n'ont pas montré d'efficacité évidente. Et la chirurgie réfractive, encore une fois, ne change rien au problème de la rétine.
D'abord, merci à vous tous pour ces exposés fort clairs et... comme ça ? D'accord. Vous savez, j'ai pas besoin de micro en général, mais merci. Vous pouvez lâcher. Hein.
Oui.
Et je voulais vous poser une question concernant... je suis très concerné par le décollement de rétine et puis la cataracte depuis très, 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 très longtemps. Mais ça ne concerne pas cette pathologie parce que je les connais relativement bien. Ça concerne l'herpès de la cornée. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ont ça et ils souffrent terriblement. Merci.
L'herpès, on est tous porteurs du virus de l'herpès, et parfois il peut avoir des résurgences donc de l'herpès. C'est le classique bouton de fièvre. Bon, voilà, c'est disgracieux, mais pas grave sur le plan fonctionnel. Malheureusement, ça peut parfois survenir dans l'œil, en particulier sur la cornée, où là c'est très douloureux, et il y a des risques bien sûr sur le plan fonctionnel, parce que ça va entraîner des opacités de la cornée, et donc des baisses d'acuité visuelle. Donc, en général, si on fait une crise herpétique oculaire, on le sait, on a très mal, donc on va vite consulter, et ensuite on essaie de mettre en place des traitements, en particulier par voie... en gouttes, mais aussi par voie générale, pour limiter le risque de récidive. Voilà. Je ne sais pas si vous avez...
Le problème, c'est que plus on fait des récidives, et plus on a une cicatrice sur la cornée, avec des risques de mal voir au long cours. Donc, il faut essayer de diminuer les risques de récidive.
Okay. Moi, je voudrais poser une question concernant le glaucome. Quels sont les espoirs qu'on peut attendre de la recherche actuelle ?
La recherche ultime, c'est ce qu'on appelle la neuroprotection, voire même la neurorégénération, c'est-à-dire rendre des conserver des fibres visuelles en souffrance fonctionnelles plus longtemps, c'est la neuroprotection, et la neurorégénération, c'est rendre des fibres visuelles qui sont quasiment mortes de nouveau fonctionnelles. Et après, il y a refabriquer des fibres visuelles. Bon. On n'en est pas encore là. Il y a de la recherche, bien sûr, là-dessus. Donc, je pense que d'ici un laps de 5 à 10 ans, on aura aussi dans le glaucome des injections à faire dans l'œil, comme pour la DMLA, où on introduira à l'intérieur de l'œil des neuroprotecteurs pour justement associer à la lutte contre la pression intraoculaire pour aider à la protection de ces fibres visuelles le plus longtemps possible et les rendre plus résistantes à la limite à des pressions intraoculaires pas forcément très basses. Il faut bien comprendre que dans le glaucome, plus le glaucome est grave, plus on va chercher des pressions intraoculaires basses. Mais c'est de la... On traite pas vraiment... On traite indirectement la maladie. La maladie est au niveau du nerf optique. Donc si on veut vraiment traiter la maladie, il faudrait traiter directement les fibres visuelles. Or, ce qu'on fait, c'est on baisse la pression pour limiter la dégradation de ces fibres visuelles. Il manque effectivement quelque chose, c'est protéger ces fibres visuelles directement de toute la cascade de molécules qui sont délivrées au niveau des cellules des fibres visuelles et essayer de régénérer aussi ces fibres visuelles. Mais ça viendra pas avant 5-10 ans, à mon sens.
Oui, bonsoir. Simplement, professeur, le projet de protocole, où en est-il ?
Le protocole Aliénor ?
Vous aviez proposé à mon épouse de participer au protocole il y a un an environ.
Alors, il y a deux. Ça dépend quel protocole, parce qu'il y a deux bras en termes de recherche, en tout cas dans le service. Il y a la recherche clinique et la recherche fondamentale. Alors, la recherche clinique, on a plusieurs études cliniques en cours sur la DMLA. Il faut comprendre que, alors sur la DMLA exudative ou atrophique, on participe. Il y a par exemple des études sur la DMLA atrophique. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de traitement, mais il y a des recherches à ce sujet. Et on a la chance au CHU de Poitiers d'être centre coordonnateur national de ces études sur la DMLA atrophique. Enfin, de deux études sur la DMLA atrophique sur trois. Donc voilà, on a des protocoles de recherche sur la DMLA atrophique et sur la DMLA exudative aussi, on a des essais en cours, mais ça c'est dans le cadre de la recherche clinique. Dans le cadre de la recherche fondamentale, il y a des collections biologiques où on peut prélever des patients, mais on n'en prélève pas un très grand nombre, on prélève de l'ordre d'une dizaine de patients, et des formes particulières de la maladie justement pour pouvoir analyser ces formes-là. Donc je ne sais pas de quel protocole vous voulez parler.
Honnêtement, j'en sais pas plus. Simplement que vous aviez proposé à mon épouse de participer. Participation qui a été interrompue par vos services. Pour quelle raison, je ne sais pas. Nous avions reçu un appel téléphonique nous précisant que il y avait une interruption dans la démarche.
Alors il y a différents protocoles. Il y a des protocoles qu'on termine parce que il n'y a plus d'inclusion. Il faut savoir que dans un protocole, si on inclut, on a des critères d'inclusion. Statistiquement, on calcule le nombre de patients à inclure pour pouvoir arriver à nos objectifs primaires. Par exemple, on veut analyser l'effet sur l'acuité visuelle. Si on atteint le nombre de patients à inclure, on ne peut plus inclure les autres patients. Donc il y a parfois des patients qu'on a mis un peu en liste d'attente et puis on les prévient qu'on ne peut plus inclure. Donc on leur dit simplement le protocole est terminé pour pas les décontenancer. Mais j'espère que votre épouse n'en prendra pas ombrage et qu'on la reverra prochainement.
Oui, j'avais une question sur les corps étrangers dans le vitre et de l'œil. On n'avait pas beaucoup d'informations quant à leur apparition, comment ils apparaissaient. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de traitement.
Vous parlez des corps flottants.
Oui, les corps flottants.
Alors les corps flottants, en fait, je vais revenir sur la diapo initiale. Les corps flottants, en fait, voilà. Le vitré, c'est du gel dans l'œil, donc c'est complètement transparent, mais à un certain moment, ça va se décoller. Et vous imaginez, vous voyez un verre d'eau, vous mettez une goutte d'huile dedans, l'huile est transparente, mais on voit la goutte d'huile dans le verre d'eau. Ben c'est pareil, le vitré, en se décollant, on va voir le patient va voir l'interface de la surface du vitré, qui est parfois un petit peu opacifiée, et quand ça va passer devant l'axe visuel, ben il va voir cette interface qui a une forme différente selon les patients. Il y en a qui vous parlent de mouches, d'araignées ou d'autres formes. Et donc cette interface va passer et on ne traite pas les patients. Dans des cas particuliers, on les opère, mais dans la grande majorité des cas, on ne les traite pas. On leur dit qu'ils vont s'habituer à ce corps flottant. C'est un peu comme un animal de compagnie qu'ils ont acquis. Mais parfois, il arrive qu'on les opère parce que ces corps flottants, quand ils retentissent sur la qualité de vie et qu'ils entraînent une baisse de vision vraiment significative, certains patients, on finit par les opérer. Mais dans la grande majorité des cas, on surveille. Parce que simplement, la médecine, c'est un bénéfice entre, c'est un calcul entre le risque et le bénéfice. Le risque d'opérer un patient qui se plaint d'un petit corps flottant qui gêne de temps en temps est probablement plus élevé que le bénéfice qu'on en aurait.
C'est gênant, mais le cerveau arrive à compenser. C'est un peu gênant, mais le cerveau réussit à compenser et on s'y habitue. Moi, j'en ai un dans chaque œil, mais c'est un peu gênant par moment, effectivement.
Vous avez deux animaux de compagnie, alors.
Voilà. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui ?
Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si aujourd'hui la myopie, on peut l'opérer ou s'il faut attendre un certain degré de stabilité.
On opère la myopie lorsqu'elle est stable, depuis au moins un an. Donc on propose ça parce que pendant l'adolescence, souvent la myopie s'aggrave, elle évolue. Donc en général, on commence à proposer l'opération après 20 ans, qui est la période où la myopie se stabilise. Mais il faut qu'elle soit stable depuis au moins un an.
Mais à l'heure actuelle, c'est difficile de les stabiliser, vu que les gens travaillent beaucoup sur écran.
Oui, mais en général, le pic d'évolution, c'est dans l'adolescence, et puis la myopie se stabilise.
Et à l'âge de 30 ans, donc, elle devrait être stabilisée.
La plupart du temps, elle est stabilisée à 30 ans. Sauf pour les fortes myopies ou l'évolution, comme le professeur Levézier vous l'a expliqué tout à l'heure, la myopie, l'allongement du globe oculaire continue à se faire, mais ça, c'est pour les myopies dites malignes, qui sont très importantes. On opère les myopies jusqu'à 7-8 dioptries au laser facilement. Après, au-delà, le laser ne peut plus, enfin, la chirurgie réfractive par laser n'est plus possible.
Est-ce qu'il existe plusieurs techniques aujourd'hui pour la myopie ?
Les techniques, c'est les techniques au laser. Et là, il y a plusieurs effectivement techniques, qu'on appelle la PKR, qui abrase, qui amincit la cornée pour modifier sa puissance de réfraction, soit ce qu'on appelle le LASIK, où on travaille sur un volet, on ouvre la cornée, on fait un volet, et on travaille à l'intérieur, dans le stroma. Voilà. C'est les deux techniques les plus utilisées.
Et comment sont choisies les techniques ? Comment, en fonction de quoi sont choisies les techniques ?
Elles sont choisies en fonction de l'épaisseur de la cornée. Pour pouvoir travailler, il faut que la cornée soit suffisamment épaisse, sinon on a des risques de déformation de la cornée au long cours. Et donc, c'est en fonction de l'épaisseur de la cornée et de la puissance de la myopie que le choix se fait.
Bonsoir. Vous avez parlé de taches noires, de corps flottants. Est-ce que, à quoi pourrez-vous faire penser l'apparition de bandes rouges dans le champ visuel suite à une exposition essentiellement de soleil, en situation ensoleillée. Des bandes rouges qui traversent le champ de vision. Non, ça dure un quart d'heure et ça disparaît. Plus tard, à une autre exposition ça peut être au soleil. Systématiquement, vraiment très aléatoire.
Ça peut être des phénomènes de persistance visuelle. Vous savez, quand vous avez un éclairage lumineux, ça sature un peu les photorécepteurs. Et quand vous ressortez dans une autre ambiance lumineuse, ça peut se maintenir, cette sensation.
D'accord.
Et après, il faut peut-être aussi consulter, voir s'il n'y a pas autre chose.
D'accord.
Est-ce qu'on peut être amené à opérer sur le même œil deux fois la cataracte, ou c'est une fois et c'est définitif?
C'est une fois et c'est définitif. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on peut avoir apparition de cataracte secondaire. C'est-à-dire que la capsule qu'on a laissée peut s'opacifier. Et à ce moment-là, ça se traite au laser. On ouvre la capsule une seule fois et ça permet d'avoir une restitution visuelle.
Dans de rares cas aussi, la cataracte, il arrive qu'on ne puisse pas implanter le patient dans un premier temps. Vous avez vu, il y a deux différentes phases. D'une part, on enlève le cristallin et d'autre part, on met un implant. Parfois, l'opération est telle qu'il peut y avoir une complication ou des soucis qui nous font qu'on n'a pas l'implant qu'il faut et on est obligé d'implanter dans un second temps le patient.
On ne change jamais l'implant.
Habituellement, non, sauf s'il y a un problème d'implant qui se modifie. Par exemple, typiquement, des patients qui ont été opérés de la cataracte peuvent parfois avoir un implant qui tombe au fond du fond d'œil. C'est rare, mais ça peut arriver s'il y a des anomalies anatomiques de l'œil. Et ça, il faut parfois enlever l'implant et en remettre.
Oui, parfois après un traumatisme oculaire qui rend les petites fibres qui tient le cristallin. Effectivement, on peut avoir une subluxation et on peut être amené à remettre un cristallin, mais c'est toujours dans le cadre des complications.
Et les fibres qui tiennent le cristallin, c'est ça, là, les petites fibres là. On appelle ça la zonule et parfois il y a des anomalies de cette zonule qui font que les fibres sont coupées et le cristallin est relativement instable. Alors parfois, on s'en aperçoit quand on opère le patient de la cataracte, ou parfois, c'est simplement un implant qui a été posé il y a des années avant, les fibres, à force de s'altérer, ça fait tomber l'implant dans le fond de l'œil.
D'autres questions ? Attendez, excusez-moi, il y a une jeune fille qui a levé la main, je vais lui passer le micro et je reviens vers vous.
Oui, bonjour. C'est juste par rapport à la thérapie cellulaire, je voudrais juste revenir dessus. Je sais que vous avez fait des essais dessus et c'est par rapport aux complications qu'il y a pu avoir. Est-ce que vous avez eu des soucis avec? Et simplement, par rapport au traitement, est-ce que vous avez eu des résultats rapides ou est-ce qu'il a fallu attendre des semaines ou des mois?
Alors là, il n'y a aucun essai chez l'homme fait à Poitiers avec la thérapie cellulaire. Je précise les choses. Je veux dire, aucun essai clinique. Là, on est au stade de la recherche où on essaie de comprendre pourquoi certains patients développent une DMLA et certains n'en font pas. Ça se fait dans un laboratoire de recherche, dans des tubes, dans des petits tubes ou sur des plaques, avec des puits, avec des cultures cellulaires. Mais il n'y a pas d'essai. Évidemment, on peut obtenir à partir d'un patient qui souffre de DMLA, d'une DMLA atrophique, par exemple, il n'y a plus du tout de cellules de la rétine. Je vous ai montré des plages d'atrophie tout à l'heure. Il n'y a plus du tout de cellules de la rétine, mais bizarrement, on peut obtenir de son sang, on peut transformer certaines cellules de son sang en cellules de la rétine. Donc le pas est rapidement franchi pour penser à un jour pouvoir lui injecter ces cellules. Mais pour ça, il y a plein d'étapes avant. Il faut vérifier que ce sont bien des cellules qui sont bien matures, qui sont des cellules de la rétine. Il faut vérifier que ces cellules ont des capacités à fonctionner normalement. Il faut vérifier qu'elles ne sont pas rejetées. Donc il y a plein d'étapes de recherche avant d'arriver à un essai clinique. Mais effectivement, il y a des essais cliniques dans le monde, en cours, qui n'ont pas montré actuellement de résultats très très probants. En tout cas, il y avait un essai au Japon qui a été arrêté. Et donc voilà, donc on en est encore qu'au stade de la recherche.
Oui, si l'implant tombe, comment un autre implant va pouvoir tenir s'il y a une anomalie?
Alors, d'abord, il faut retirer l'implant qui est tombé parce qu'il peut y avoir des complications. Donc, c'est une chirurgie un peu complexe. Et puis, il y a des implants qu'on arrive à clipper à l'iris, c'est-à-dire ils ont des petites pinces et on peut aller les mettre sur l'iris, les accrocher à l'iris. Donc, dans le cas des complications, je ne vous ai pas parlé de ça, mais ça reste relativement rare. Hein.
Vous voyez, l'implant, au lieu de le mettre dans le sac du cristallin, parce que là, le cristallin, il est dans un sac, on enlève ce cristallin, on met l'implant ici, normalement. L'implant, on peut le mettre devant, parfois, et on peut le fixer à l'iris. Il a des petits crochets, l'implant, et donc on peut le faire tenir comme ça. Parfois, quand il reste une partie du sac, parfois le sac, il reste une partie, on peut mettre un implant aussi ici, devant, entre l'iris et le sac, et il est tenu comme ça. Donc il y a plein d'autres possibilités.
Est-ce qu'il y aurait une autre question? Peut-être la dernière, parce qu'on approche de 20h. Non?
Est-ce que la DMLA peut être héréditaire?
Alors la DMLA, il y a des facteurs héréditaires, effectivement. Globalement, il y a des facteurs de risque héréditaires où on est à peu près 25% là dans cette pièce à porter le facteur de risque, mais ce ne sont pas des mutations. J'entends par là que c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas parce qu'on est porteur du facteur de risque qu'on développe un jour la DMLA. Mais être porteur du facteur de risque le plus commun, par exemple à l'état homozygote, c'est le gène du CFH. Il y a un allèle, enfin il y a un polymorphisme dans ce gène, c'est un peu compliqué, enfin il y a une anomalie dans ce gène qui confère un risque de DMLA. Et quand on est porteur à l'état homozygote, on a par exemple 8 fois plus de risque de développer une DMLA.
Les facteurs environnementaux sont très importants aussi, en particulier le tabagisme. On a montré que les patients qui fumaient beaucoup avaient plus de risque de faire la DMLA.
Je voulais, donc ça c'est important. Et c'est vrai que dans les pathologies rétiniennes en général, il est important, Martial en a parlé un peu sur les associations, il est important de savoir qu'il y a des associations de patients qui peuvent vous orienter. On a d'ailleurs un représentant d'une association de patients connue qui est Rétina France, qui est ici présent, qui n'a pas posé de questions parce qu'il est au courant de tout déjà. Mais les associations sont vraiment très importantes pour... orienter les patients, donner des informations sur les patients, sur les maladies, pardon. Et ça, c'est important aussi parfois pour les patients qui sont parfois, entre guillemets, en bout de course, thérapeutiques. Il y a toujours un relais humain qu'il est important d'avoir en tête.
Vous avez la possibilité de distribuer des informations sur l'association. Est-ce que vous pouvez vous lever, qu'on puisse vous repérer au fond de la salle? Voilà, si vous voulez... récupérer des petits fascicules sur l'association. C'est le monsieur auquel il faut s'adresser.
Un monsieur a des fascicules sur Rétina France, je pense, et sur l'association maculopathie myopique des patients très myopes qui peuvent effectivement avoir des informations sur la myopie.
Une fois, deux fois, trois fois, pas de questions? Alors on va remercier le docteur Boissineau, le professeur Leveziel, le docteur Mercier et le docteur Champin pour cette conférence. Je vous rappelle que dans votre dossier, il y a une petite fiche sur laquelle vous pouvez vous exprimer par rapport à cette soirée, ce qu'elle vous a apporté, les choses positives, les choses à améliorer pour les prochaines soirées. La prochaine soirée, pour tous les habitués, attention, ce sera un mercredi soir et pas un jeudi. Ce sera le mercredi 11 octobre et il sera question de perturbateurs endocriniens et de ces relations, la relation entre les perturbateurs endocriniens et les maladies chroniques. Et ce sera donc le mercredi 11 octobre. Voilà. Et je vous rappelle que si vous avez envie de faire un don à la Fondation Aliénor, il y a aussi dans votre dossier un document à consulter et à faire passer. Merci à tous pour cette soirée.